Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est un genre qui a fait école, avec ses personnages typés, leur langage et leur musique. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, les films d'ado.
Rien de Rounet?
Allô, Ferris Bueller, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Rounet? Merci.
Un instant.
Je vais vous dire une chose, enfoiré. Si vous n'aimez pas mon règlement, vous pouvez vous le mettre où je pense et aller vous faire voir chez les Grecs.
Hey!
Quoi?
Ferris Bueller est sur la queue!
Un classique du genre tiré des années 80, les années de l'adolescence au cinéma La folle journée de Ferris Bueller, réalisation John Hughes en 1986. Oui, c'est vrai, les personnages étaient parfois typés, le rebelle, la fille modèle, le sportif ou l'intello. Mais bien au-delà de la caricature, le film pour ados s'est d'abord adressé à son public. Il a inventé un langage, un ton qui ne parlait plus de nostalgie, mais plutôt du moment présent, avec humour, tendresse, cynisme et ironie.
Kia.
Tu t'entends bien, toi, avec tes parents?
Si je réponds oui, je suis un imbécile, c'est ça?
T'es un imbécile de toute façon. Mais si tu dis que tu t'entends bien avec tes parents, c'est que t'es un menteur en plus de ça.
Mais doucement, les gars, doucement. Je trouve que mes parents sont idiots, c'est comme vous. Vous savez, j'ai rien en commun avec eux. L'idée qu'ils se font de la compassion dont a besoin un enfant, c'est zéro. C'est bidon, tu vois.
Génie.
Ouais.
T'es le fils que tous les parents mouilleraient d'avoir.
Et justement, c'est ça le problème.
Ouais, déjà, on s'attendait à ce que tu sois complètement perturbé avec le genre de fringues qui te foutent sur le dos. Mais en fait, non. T'es cucu la praline en long, en large et en travers. Dis-moi ce que tu ferais si tu passais par ta vie à devenir un petit citoyen modèle.
Pourquoi tu te crois obligé de devenir tout le monde?
Ça s'appelle dire la vérité, trou du cul. T'es même pas capable de faire la différence.
Extrait d'un autre classique du genre, Breakfast Club, en 1985. Autre film signé John Hughes. Alors, pour nous en parler, mon invité, Hélène Faradji, que vous connaissez bien, chroniqueuse cinéma, également directrice de la programmation du Festival de cinéma de la Ville de Québec, avec moi en studio. Bonjour, bon, Hélène.
Bonjour.
Bon, ben, on a le même âge à peu près,
oui.
Vous et moi. C'est quoi pour vous le cinéma d'ado? C'est un genre ou pas, d'ailleurs?
C'est assez difficile à circonscrire parce que, oui, c'est un genre et non, ça n'en est pas un. En fait, c'est un genre parce que plusieurs films l'ont illustré de façon assez archétypale au courant des années 80, mais c'est aussi un genre qui s'est illustré dans différents genres, c'est-à-dire qu'il y a eu des films d'ados dans le cinéma d'horreur, dans la comédie musicale, dans la science-fiction, le film de sport aussi a pu avoir sa version ado, mais grosso modo, on arrive quand même à trouver des traits communs qui nous permettent de dire que ce sont des films d'ados. C'est d'abord le fait que ce sont des films destinés aux adolescents.
Oui.
Et c'est aussi des films dont le sujet est l'adolescence. Mais il faut vraiment ces deux caractéristiques-là, parce qu'il y a eu beaucoup de films dont le sujet est l'adolescence, mais qui ne sont pas des films d'ados. Je pense par exemple au cinéma de Gus Van Sant, qui, oui, traite de l'adolescence, mais qui n'est pas principalement destiné aux adolescents.
Non, c'est plutôt un public adulte, là.
Exactement. Il y a aussi le fait que c'est principalement des films américains. Il y en a eu, par exemple, en France, mais qui sont davantage axés sur les relations entre les adolescents et les adultes, les parents, les profs, etc. Alors que dans la version américaine, on reste entre adolescents, l'idée étant vraiment d'illustrer ce que c'est qu'être un adolescent. Et puis, il y a une autre caractéristique qui est un petit peu plus cynique, c'est que c'est une invention marketing. Ça a été fait par les studios avec l'idée de cibler un public très précisément, donc celui des jeunes, mettons 14-18 ans à peu près, pour aller, bah, évidemment, développer un nouveau public.
Ouais, un public qui va au cinéma.
Voilà.
C'est quoi pour vous le film d'ado par excellence? On a tous notre film culte.
Ouais, je pense que Breakfast Club reste quand même le film le plus, disons peut-être le plus archétypal et pourtant celui qui a le mieux vieilli.
Oui, c'est vrai.
Je trouve que c'est un film qui, justement, parce qu'il plante ses personnages de façon très claire, qu'il le fait de façon aussi... que c'est un huis clos, après tout.
Oui, hein. C'est lent.
Exactement, c'est lent. C'est des ados qui se retrouvent entre eux et qui apprennent à travers leurs différences, à trouver des points communs dans ce moment délicat qu'est l'adolescence. Et je trouve qu'il y a un humour aussi, une tendresse qui continue à nous parler aujourd'hui avec la même force.
Oui, tout à fait. C'est un film qui a une profondeur. Hein. Oui. Breakfast Club, c'est pas pour rien, c'est peut-être le classique du genre. Mais parlons des origines. Alors, comment il se développe, ce film d'ado? À partir de quand?
En fait, dès les années 30, donc dès les débuts d'Hollywood, les studios se préoccupent de cette jeunesse parce qu'ils ont conscience qu'il faut renouveler le public quand on est une industrie comme celle du cinéma. Il faut former les spectateurs de demain. Donc, très jeunes, donner l'habitude aux ados de venir voir des films. Dans les années 30, par contre, ils optent pour une stratégie qui est assez... qui n'a pas vraiment porté ses fruits, c'est-à-dire qu'ils se disent, eh bien, pour attirer des jeunes, on va mettre des jeunes acteurs à l'écran. Donc, c'est les débuts de Judy Garland, qui a 14 ans, Mickey Rooney, qui a 17 ans. Donc, on les met dans des films en espérant que ça va suffire pour attirer des jeunes. Sauf qu'on est dans un contexte où le code Hays régit la production et interdit toute représentation de l'alcool, de la drogue, de la sexualité. Donc, c'est une adolescence, mais... très propre, très gentil, très en réalité faite pour satisfaire un public de 7 à 77 ans. Donc ça fonctionne pas tout à fait et ça va davantage se développer au courant des années 50.
Avec aussi le développement même du concept, parce qu'on dit depuis le début film d'ado, mais le concept d'adolescence, il a évolué. C'est un concept qui est relativement récent dans l'histoire aussi.
Exactement, là. Il apparaît après-guerre. C'est-à-dire, c'est les enfants du baby-boom. Ils sont plus nombreux, ces jeunes-là. Ils sont plus obligés de travailler, ils sont plus obligés d'aller à l'armée, ils ont du temps, ils ont de l'argent. Et donc, effectivement, même la sociologie s'intéresse à cette nouvelle ribambelle de jeunes gens qui sont présents aux États-Unis. Et le concept d'adolescence vient avec un cinéma fait pour eux dès les années 50. Ça se distingue de trois façons principales. D'abord, il y a les films musicaux. Qui sont des véhicules pour les stars du moment, les plus célèbres étant évidemment les films qui mettent en vedette Elvis Presley. On a aussi ce qu'on appelle les films de plage, où là on suit des jeunes gens en toute légèreté avec des petites romances estivales. La vedette c'est Frankie Avalone. C'est des choses très très légères. Et puis on a le développement de ce qu'on appelle les films sur la délinquance juvénile.
Oui.
Les films avec James Dean, Rebel Without a Cause, les films avec Brando, L'équipe est sauvage. Et dans l'esprit des studios, ces films-là visent à prévenir les jeunes que prendre le mauvais chemin, c'est-à-dire celui de la délinquance, eh bien, ça vient avec des conséquences, c'est très dangereux. Donc, c'est quand même des films qui sont très moraux. Donc, on n'est pas tout à fait encore dans les films d'ados tels qu'on les connaît aujourd'hui, mais on commence doucement à comprendre que pour parler à ce public-là, eh ben, il va falloir que ça se passe soit par la musique, soit par la légèreté, soit par les messages moraux. Et pourtant, ça va encore changer au cours des années et on va vraiment cristalliser les choses à la fin des années 70, début des années 80.
Ça va mettre un peu de temps parce que c'est vrai que dans les années 50, les films que vous venez de nommer, on parle de la rébellion, c'est beaucoup les films, les cheveux gominés, les manteaux de cuir, les jeans. Puis le genre, il est plutôt rare dans les années 60, à preuve. Intéressant, écoutez bien les réponses. Ce vox pop au cégep de Jonquière, c'était en 1968 à notre radio.
Lynn, nous nous sommes rendus au cégep de Jonquière.
Et nous avons demandé aux jeunes Saguenayens quel était le film qui avait attiré leur attention dernièrement.
J'ai vu deux films intéressants cet été et les deux films étaient de Polanski. Le premier, c'est Repulsion et le deuxième, c'est Rosemary's Baby.
La mélodie du bonheur.
J'ai revu à Montréal l'année dernière Blow Up. Le revoyant, j'ai dû changer mon jugement sur le film et de beaucoup. Donc c'est le film qui... à un deuxième visionnement, me l'a plus déçu dans tous les films que j'ai eu l'occasion de revoir.
Quel est le film qui t'a le plus impressionné, celui que tu as le plus aimé dans ce que tu as vu dernièrement?
The Graduate. Puis je l'ai aimé parce que c'était notre genre un peu d'étudiant, à peu près notre vie.
Ben Hur, parce que c'est un film romain et j'aime la musique romaine. Voilà, Ben-Hur, hein, ben, la mélodie du bonheur, on a eu Polanski, on a eu plein de choses là-dedans. Mais
pas de film d'ado.
Non, on est loin du film d'ado. Alors, heureusement, ben, ça va changer dans les années 70, vous l'avez dit. C'est là qu'on invente puis qu'on fixe les codes du film d'ado. Hein.
Oui, absolument. Et ça se passe principalement dans trois films. Le premier étant American Graffiti de George Lucas. Ça sort en 73. Lucas est un tout jeune réalisateur. Il n'a pas fait Star Wars encore. Et il décide dans ce film de raconter sa jeunesse, qui n'est pas très loin, puisque c'est en 1962, donc 10 ans auparavant, et une jeunesse qui est pleine de musique, d'amis, de découvertes, évidemment, sentimentales, sexuelles, et qui se passe en Californie. Donc la Californie des années 60,
toujours,
la jeunesse, tout y est pour fixer les premiers balbutiements du film d'ado. Et ça va être confirmé quelques années plus tard par National Lampoon's Animal House de John Landis en 77, qui pour la première fois va parler des fraternités. Qui sont un des grands thèmes du film d'ado à venir. Et quelques années plus tard, va arriver Ridgemont High, réalisé par une femme. C'est assez rare pour le souligner dans le monde du film d'ado, Amy Heckerling. Et là, ça va être, enfin, l'un des thèmes principaux du film d'ado, c'est-à-dire une bande d'ados qui cherche à perdre leur virginité. Voilà, qui est le grand
aussi,
sujet.
C'est aussi un autre grand thème qu'on va retrouver dans bon nombre de films d'ados. Bon, on voit que tu as un extrait justement de... Parce que c'est celui qui a remporté peut-être le plus de succès, American Graffiti, hein, de
absolument,
George Lucas.
Absolument. Pour un budget de 775 000 $, il va rapporter 118 millions, ce qui est énorme, en plus d'une nomination aux Oscars.
On l'écoute.
Ça vous dirait de faire un tour avec moi en voiture?
Excusez-moi, j'ai un copain qui est très jaloux.
Oh, c'est pas drôle.
Je sais, je regrette.
Ah oui, là, votre copain, vous êtes avec une bande de filles et il n'y a personne d'autre là-dedans. Alors, il n'y a pas quelqu'un qui veut venir faire un tour? Eh, vous n'avez rien à craindre, je suis aussi inoffensif qu'un ours en peluche.
Moi. Il y a la sœur de Judy qui veut bien, si vous êtes d'accord.
Ouh, oui, bien sûr, Judy, sa sœur, sa mère, je prends tout ce qui vient, moi. Eh, écoutez, on va aller s'arrêter à ce feu là-bas et le temps d'arriver, il passera au rouge. Ça va?
Ça va.
Et quand vous en aurez assez de sortir avec votre copain qui est jamais là, je suis un bon attrape-mouche.
On l'entend dans la musique, on est dans la nostalgie, là. On est dans une époque passée,
hein,
parce que ça sort en 73, donc ça raconte l'adolescence du réalisateur, de George Lucas. C'est ce qui va changer dans les années 80. Là, on est dans le moment présent,
exactement,
l'adolescence telle qu'elle est vécue, avec celui qui c'est vraiment le maître du film d'ado. On a entendu deux extraits depuis le début, John Hughes. Hein? Alors, c'est qui, John Hughes?
Ben, John Hughes, c'est un réalisateur qui comprend assez vite qu'il y a là un public à aller chercher, mais pas nécessairement sur le mode nostalgique, effectivement, mais sur leur présent, leur moment présent. Et c'est assez incroyable parce que son premier film, c'est Breakfast Club.
Ah oui.
Et l'année suivante, donc en 86, il sort Pretty in Pink et La folle journée de Ferris Bueller.
Quand même,
fait qu'il a vraiment compris qu'il y avait là
un filon
à exploiter. Et ce qui est aussi intéressant avec lui, c'est que c'est le premier qui fixe les codes du film d'ado tel qu'on le connaît et on le comprend aujourd'hui. Parce qu'avant lui, le film d'ado existait au début des années 80, mais il était pratiqué dans différents autres genres. C'est-à-dire qu'on a vu des films d'ado d'horreur, comme Vendredi 13, Halloween. On a vu des films d'ado en comédie musicale, avec Grease, le fantastique, la science-fiction, le sport. Enfin bref, on sentait que ça voulait exister, mais c'est vraiment John Hughes qui a compris qu'on n'avait pas besoin finalement d'aller chercher d'autres genres et que le film d'ado dans le lycée pouvait être un genre en soi. Et c'est qui a inventé les codes, les archétypes, les acteurs aussi. Il a fait débuter plusieurs acteurs qui ont fait la renommée des films d'ado comme Molly Ringwald. C'est lui qui a tout à fait compris qu'il y avait là un espace à investir, ce qu'il a fait avec beaucoup de talent.
Parce qu'avant lui, c'est vrai, vous l'avez dit, bon, les films d'horreur, il y en a plein comme ça.
Ah oui.
En général, c'est une bande d'ados dans un chalet.
Voilà.
Il y avait un meurtre quelque part. Ou sinon, des jeunes hommes qui voulaient perdre leur virginité.
Oui. Hein,
Porky's et compagnie, ça,
voilà.
Il y en a eu quelques-uns
assez
comme
grivois,
ça.
Même.
Assez grivois, ouais. Mais ce qui fait le succès de John Hughes, c'est justement sa façon de parler puis de traiter de l'adolescence d'égal à égal, hein, puis de comprendre
exactement
aussi parce que vivent les ados, les drames drame qu'ils vivent. On va l'écouter justement. C'est au micro de Corey Brunish au milieu des années 80, suivi de la bande-annonce d'un autre de ses classiques, vous l'avez dit, Pretty in Pink, Rose Bonbon en français.
What the picture was saying to adults, what those characters were saying to adults is please listen to me.
Ce que le film disait aux adultes, ce que disaient les personnages, c'est s'il vous plaît, écoutez-moi. Je suis jeune, mais j'ai des problèmes. Il ne semble peut-être pas très important pour vous, dans un contexte de vie et de mort, de survie et d'autres problèmes importants, mais être bouleversé parce que quelqu'un ne m'aime pas est réel pour moi. Les choses qui affectent les jeunes peuvent ne rien signifier pour les adultes, mais ils sont réels pour les jeunes.
J'aime cette femme et là, je vais lui dire. Et si ça la fait rire, alors elle rira.
It makes it easier to bear.
Ça irait mieux si je t'invitais au bal.
Il s'appelle Blaine.
Tu savais ce qu'il est beau.
Blaine? Il s'appelle Blaine. Oh, c'est une maladie vénérienne, ça, c'est pas un nom. You won't regret it, no, no.
Young girls, they don't forget it. Est-ce qu'il a des lèvres puissantes? Elles sont puissantes.
Trop pour moi. On ferait mieux d'en rester là, peut-être.
Évidemment, c'est peut-être pas gagné d'avance. Ça veut pas dire qu'il faut arrêter, non.
Si tu bandes pour une poufiasse, va te soulager ailleurs que chez moi. Dis-toi que tout ce qu'il veut, cet effet, c'est qu'après, il te balancera.
Tu as honte qu'on te voit avec moi.
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai.
Tu as honte
de sortir avec moi. Si toi, tu lui plais qu'il te plaît, l'opinion de ses amis, ça ne devrait pas avoir d'importance.
Je veux qu'il sache qu'il n'a aucune prise sur moi.
Les chansons d'amour, c'est plus que c'était. C'est vrai, c'est plus ça, enfin.
Donc, on l'entend, hein, des films brillants, intelligents, où les ados se sentent respectés, c'est ce qu'il disait John Hughes, mm-hmm. parce qu'on leur parle à eux, mais comment? Vous avez dit, bon, les thèmes. Alors, quels sont les thèmes qui sont traités?
Le thème principal, c'est le questionnement existentiel. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais trouver ma place dans le monde? Et à plus petite échelle, comment je vais la trouver dans la bande? La bande qui est au lycée. Comment est-ce que je vais réussir à m'intégrer? Comment est-ce que je vais réussir à être un individu dans le groupe? Tout ça, ça travaille les films d'ados de façon très marquée. Il y a aussi évidemment le questionnement sentimental, qu'il soit lié à la première fois sexuelle ou à la première romance. En général, c'est aussi partie prenante des films d'ados. Et puis, bien sûr, les films d'ados sont pour la plupart des récits initiatiques parce qu'on suit des personnages qui sont un peu perdus et qui se demandent comment est-ce qu'ils vont devenir des adultes. Et on est dans des moments où ces questionnements sont d'une intensité absolue. C'est presque des questions de vie ou de mort. Il y a quelque chose de...
C'est intense, on vit les choses avec intensité à ce moment-là. C'est notre univers.
Voilà, exactement. Donc ça, c'est tout à fait respecté dans le film d'ado et John Hughes l'a très, très bien compris. Il n'essaye pas de faire des ados des penseurs ou des gens qui essayent de s'inscrire dans le monde de façon définitive. Non, il comprend que le moment de l'adolescence, c'est le moment de la confusion. Et ça, c'est très, très bien rendu dans les films d'ados des années 80.
Oui, avec des lieux bien définis. Bon, il y a l'école secondaire, bien sûr. Hein.
Oui, effectivement.
Il y a les moments, les rites. On l'entendait dans l'extrait de Pretty in Pink. Bon, le fameux bal. Hein.
La rentrée, la fête d'Halloween, le bal de fin d'année, effectivement. Les lieux, c'est souvent le lycée avec le fameux plan dans le couloir du lycée avec tous les casiers.
Les casiers, oui.
Effectivement. Le terrain de football, le centre commercial aussi. Qui
est très présent.
D'ailleurs, le développement des films d'ados dans les années 80, il est lié au développement des centres commerciaux aux États-Unis. Les centres commerciaux commencent à envahir les États-Unis. Or, dans les centres commerciaux, il y a des cinémas et il y a des jeunes.
Oui.
Donc, les studios comprennent que ce serait une bonne idée de mettre des films destinés aux adolescents, puisqu'ils sont déjà à traîner dans ces centres. On a aussi, évidemment, les diners, la chambre d'adolescents, qui est un lieu privilégié du film d'ado. Et puis, on a surtout des personnages très typiques. On dit archétype, mais en même temps, c'est assez réaliste. Hein. C'est vrai que dans les collèges...
Oui, il y a le sportif, il y a les nerds,
la pop-pop girl, exactement.
Ça, ouais.
Et souvent, on a aussi la notion de bande, de caste. Mm-hmm. Et c'est pour ça que les personnages principaux, qui sont souvent masculins, qui sont souvent blancs aussi, il faut le dire, sont des personnages qui viennent d'ailleurs. Donc, qui viennent d'un autre pays, d'un autre lycée, d'une autre ville, et qui découvrent les différentes bandes qui constituent les principaux éléments du lycée ou les principaux archétypes qui sont les éléments forts du lycée. Donc, c'est en général l'astuce trouvée par les scénaristes pour nous faire découvrir ce monde-là.
Ah oui, celui qui débarque puis voilà, qui découvre que ben, voilà, les métalleux ne tiennent pas avec les sportifs, voilà. Puis les sportifs pas avec les preppy, puis voilà. Bon, ça va se poursuivre comme ça jusqu'au milieu des années 90 avec, bon, quelques variantes quand même. Hein?
Oui, absolument, parce que dans les années 90, on commence à vouloir s'adapter un petit peu plus au goût du jour. Donc, on commence à avoir plus de personnages féminins. Mm-hmm. C'est notamment Mean Girls, qui est un des films peut-être les plus typiques des années 90-2000. On commence aussi à adapter des livres pour ados. Ça commence à être une... Harry Potter, par exemple, pourrait être considéré comme une continuation du film d'ado. Les slashers, c'est-à-dire les films d'horreur, mais beaucoup plus violents, ouais. Comme Scream, ouais. Vont commencer aussi à prendre d'assaut le cinéma. Et puis, on commence, ce qui en général est le signe du déclin d'un genre, on commence à voir les premières parodies des films d'ados. Donc, Scary Movie, par exemple, ou Not Another Teen Movie, qui porte évidemment son titre. Oui. Et on commence effectivement à se moquer de ces archétypes, de ces lieux typiques, de ces questionnements existentiels récurrents. Et en général, ça marque la fin de quelque chose quand le cinéma commence à se parodier comme ça.
Oui, ça, c'est des années 2000. Puis là, j'ai l'impression, en tout cas, qu'on reprend ça avec les Netflix de ce monde. Hein. Les thèmes ont changé, évidemment.
Voilà.
Mais on reprend quand même un peu de ces codes.
On les reprend dans des séries. Oui. Le cinéma a peut-être un petit peu abandonné le film pour ados. Et effectivement, il s'est retrouvé sur les plateformes. Alors, il y a des séries, évidemment, comme Euphoria, mais aussi Sex Education, oui. Qui sont beaucoup plus conscientes des enjeux qui semblent traverser la jeunesse aujourd'hui et qui sont des enjeux liés à la représentation de la diversité, notamment sexuelle, corporelle, d'origine, les questions de la santé mentale aussi, qui sont beaucoup plus frontalement abordées dans ces séries que dans les films des années 80. On a aussi, il faut le dire, ce qui a un peu nuit à la continuité du film d'ado, la concurrence féroce des films de super-héros.
Ah oui.
Qui ont pris une place dans le cœur des ados assez majeure. Et effectivement, Hollywood a préféré investir ce champ-là et peut-être laisser aux plateformes et aux séries le soin de parler directement aux ados avec des personnages d'ados.
Mais l'adolescence, ça demeure quand même l'adolescence. Les thèmes changent, mais ça demeure quand même les mêmes préoccupations. Puis notre univers, hein, on vit les choses intensément, bien sûr. Les films d'ados, ben, tiens, on va se laisser là-dessus. C'est aussi la musique. Hein, puis dans le cas de John Hughes, ça fait partie de sa signature. Il a même possédé sa propre étiquette de disque dans les années 80. Ben, tiens, on va se laisser sur un classique de l'époque. Vous avez dit au début le film d'ado par excellence, Breakfast Club. Ben, tiens, justement, c'est Simple Minds de Thierry de Breakfast Club. Mon invité, je rappelle, Hélène Faradji, elle est chroniqueuse de cinéma, directrice de la programmation du Festival de cinéma de la ville de Québec. Toujours un plaisir, Hélène. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Merci à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Là-dessus, bonne soirée et à une prochaine. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.